Le cuisinier de Tigne dépeçait un bœuf pour le prince Vanouet. On entendait des houas quand il employait de la main l'animal, qu'il retenait sa masse de l'épaule et que, la jambe arc-boutée, du genou l'immobilisait un instant. On entendait des huots quand son couteau frappait en cadence, comme s'il eût exécuté l'antique danse du bosquet ou le vieux rythme de la tête de lynx. « C'est admirable !» s'exclama le prince. « Je n'aurais jamais imaginé pareille technique. » Le cuisinier posa son couteau et répondit. « Ce qui intéresse votre serviteur, c'est le fonctionnement des choses, non la simple technique. » Quand j'ai commencé à pratiquer mon métier, je voyais tout le bœuf devant moi. 3 ans plus tard, je n'en voyais plus que les parties. Aujourd'hui, je le trouve par l'esprit, sans plus le voir de mes yeux. Mes sens n'interviennent plus. Mon esprit agit comme il l'entend et suit de lui-même les linéaments du bœuf. Lorsque ma lame tranche et disjoint, elle suit les failles et les fentes qui s'offrent à elle. Elle ne touche ni aux veines, ni aux tendons, ni à l'enveloppe des os, ni bien sûr à l'os même. Quand je rencontre une articulation, je repère le point difficile. Je le fixe du regard et, agissant avec une prudence extrême, lentement, je découpe. Sous l'action délicate de la lame, les parties se séparent avec un huot léger comme celui d'un peu de terre que l'on pose sur le sol. Mon couteau à la main, je me redresse, je regarde autour de moi, amusé et satisfait, et après avoir nettoyé la lame, je le remets dans le fourreau. Lorsqu'il a commencé à pratiquer son métier, explique-t-il au prince, il voyait tout le bœuf devant lui. Il se sentait impuissant devant l'objet qui s'opposait à lui de toute sa masse. Puis cette opposition initiale du sujet et de l'objet s'est modifiée. Après 3 ans d'exercice, il ne voyait plus que certaines parties du bœuf, dit-il, celles dont le découpage exige le plus d'attention. Il était devenu plus habile. Il avait commencé à vaincre la résistance de l'objet. Il avait désormais moins conscience de l'objet que de sa propre activité. Puis le rapport s'est transformé tout à fait. « Aujourd'hui, dit-il au prince, je trouve le bœuf par l'esprit sans plus le voir de mes yeux, mes sens n'interviennent plus, mon esprit agit comme il l'entend et suit de lui-même les linéaments du bœuf. » Quand une synergie si complète se produit, l'activité se transforme et passe à un régime supérieur. Elle semble s'émanciper du contrôle de la conscience et ne plus obéir qu'à elle-même. Les étapes décrites par le cuisinier nous sont familières. Nous les avons parcourues 100 fois. Lorsqu'enfant, nous avons appris à verser de l'eau dans un verre ou à couper une tranche de pain, par exemple. Il a fallu que nous commencions par vaincre l'inertie des objets. Les objets cessant peu à peu de nous résister. Nous avons pu concentrer notre attention sur les points délicats, en veillant à ne pas laisser tomber de gouttes de vin sur la nappe ou à couper les tranches de pain d'égale épaisseur. Enfin, nous avons accompli ces opérations en jouant et en nous jouant des objets. Dans certains cas, nous avons même réalisé cette synergie qui transforme qualitativement l'activité et lui confère une efficacité merveilleuse. Après un coup de marteau bien ajusté, par exemple, qui envoyait sans effort un gros clou dans le bois, ne nous est-il pas arrivé de réagir comme le cuisinier de Tigne qui, sa tâche accomplie, se redresse, son couteau à la main, et regarde autour de lui amusé et satisfait. Le duc Houan lisait dans la salle. Le charron Pienne taillait une roue en bas des marches. Le charron posa ses ciseaux et son maillet, monta les marches et demanda au duc. « Puis-je vous demander ce que vous lisez ?»« Les paroles des grands hommes, » répondit le duc. « Sont-ils encore en vie ?»« Non, ils sont morts. Alors, ce que vous lisez là, ce sont les déjections des anciens. Comment un charron ose-t-il discuter ce que je lis ? Répliqua le duc. Si tu as une explication, je te ferai grâce, sinon tu mourras. J'en juge d'après mon expérience, répondit le charron. Quand je taille une roue et que j'attaque trop doucement, mon coup ne mord pas. Quand j'attaque trop fort, il s'arrête dans le bois. Entre force et douceur, la main trouve et l'esprit répond. Il y a là un tour que je ne puis exprimer par des mots, de sorte que je n'ai pu le transmettre à mes fils, que mes fils n'ont pu le recevoir de moi, et que, passé la septantaine, je suis encore là à tailler des roues malgré mon grand âge. Ce qu'ils ne pouvaient transmettre, les anciens l'ont emporté dans la mort, ce ne sont que leurs déjections que vous lisez là. Il y a d'abord un problème technique. Quand je taille une roue et que j'attaque trop doucement, dit le charron, mon coup ne mord pas. Quand j'attaque trop fort, il s'arrête dans le bois. Entre force et douceur, poursuit le charron, la main trouve et l'esprit répond. Et il ajoute, il y a là un tour que je ne puis exprimer par des mots. Pour peu que nous examinions notre expérience, nous constaterons que nous possédons là, comme le charron, un tour que nous ne pouvons pas exprimer par des mots, et que, pas plus que lui, nous ne pouvons le transmettre par des mots. Nous ne pouvons même pas le transmettre du tout. Quiconque possède ce geste en a fait la conquête par lui-même, en affrontant les inévitables difficultés initiales, en parcourant des phases analogues à celles du cuisinier, et en atteignant finalement la maîtrise de la même façon que lui. Il y a là un tour que je ne puis exprimer par des mots. De sorte que je n'ai pas pu le transmettre à mes fils, dit le charron. Il faut comprendre qu'il n'a rien pu faire pour eux parce qu'ils n'ont pas voulu apprendre le geste par eux-mêmes. C'est pourquoi, ajoute le charron, je suis encore là à tailler des roues malgré mon grand âge. Il n'y a pas de successeur, il n'a pas eu de maître non plus. Entre force et douceur, explique-t-il, la main trouve et l'esprit répond. Le texte est précis. Par approximation successive, la main trouve le geste juste, l'esprit enregistre les résultats et en tire peu à peu le schème du geste efficace qui est d'une grande complexité physique et mathématique, mais simple pour celui qui le possède. Un geste pratiqué quotidiennement devient inconscient. Plus nous le pratiquons avec assurance, plus il se soustrait à notre attention. Confucius admirait les chutes de Lulang. L'eau tombait d'une hauteur de 300 pieds et dévalait ensuite en écumant sur 40 lieues. Ni tortue ni crocodile ne pouvaient se maintenir à cet endroit. Mais Confucius aperçut un homme qui nageait là. Il crut que c'était un malheureux qui cherchait la mort et dit à ses disciples de longer la rive pour se porter à son secours. Mais quelques centaines de pas plus loin, l'homme sortit de l'eau et, les cheveux épars, se mit à se promener sur les berges en chantant. Confucius le rattrapa et l'interrogea. « Je vous ai pris pour un revenant, mais de près, vous m'avez l'air d'un vivant. Dites-moi, avez-vous une méthode pour surnager ainsi ?»« Non, répondit l'homme, je n'en ai pas. Je suis parti du donné, j'ai développé un naturel et j'ai atteint la nécessité. » Je me laisse happer par les tourbillons et remonter par le courant ascendant. Je suis les mouvements de l'eau sans agir pour mon propre compte. Que voulez-vous dire par partir du donné, développer un naturel, atteindre la nécessité ? Demanda Confucius. Et l'homme répondit, je suis né dans les collines, je m'y suis senti chez moi, voilà le donné. J'ai grandi dans l'eau et je me suis peu à peu senti à l'aise, voilà le naturel. J'ignore pourquoi j'agis comme je le fais. Voilà la nécessité. Par nécessité, il a commencé son apprentissage dans le registre de l'humain. Au début, dit-il au prince, je voyais tout le bœuf devant moi. L'animal s'opposait à lui de toute sa masse. Il devait faire preuve de volonté, de persévérance pour mener le dépeçage à bien. 3 ans plus tard, explique-t-il, il n'en voyait plus que les parties. Il était devenu plus habile, mais butait encore sur des difficultés. Puis s'est produit le passage du régime inférieur au régime supérieur. Aujourd'hui, dit-il, je trouve le bœuf par l'esprit, sans plus le voir de mes yeux. Mes sens n'interviennent plus. Mon esprit agit comme il l'entend. C'est ainsi qu'il rend compte de son activité du dedans. L'effet qu'elle produit au dehors est décrit au début du texte. On entendait des ouah quand il empoignait de la main l'animal, qu'il retenait sa masse de l'épaule et que la jambe arc-boutée du genou l'immobilisait un instant. On entendait des huots quand son couteau frappait en cadence, comme s'il eût exécuté l'antique danse du bosquet ou le vieux rythme de la tête de lynx. Son action est devenue supérieurement efficace, elle est devenue nécessaire au sens où l'entendait le nageur, entièrement et infailliblement déterminée par d'autres forces que la conscience. Pas tout à fait, car quand je rencontre une articulation, dit-il, je repère le point difficile, je le fixe du regard, et agissant avec une prudence extrême, lentement, je découpe. À certains moments, il continue de contrôler très attentivement ce qu'il fait. Il n'est pas complètement dans le régime céleste. Chuang-tzu s'intéresse tout particulièrement à ce passage du régime supérieur, à ce moment où se produit une sorte de basculement et au mouvement artificiellement coordonné et contrôlé par la conscience, se substitue soudain un fonctionnement des choses beaucoup plus complet qui, prenant le relais, décharge la conscience de la plus grande partie de ses tâches et abolit l'effort. Ce sont nos facultés, nos ressources et nos forces connues et inconnues qui se sont combinées de façon à agir dans le sens que nous désirons et dont l'action conjuguée s'impose maintenant avec le caractère de la nécessité. Ce basculement est le point d'aboutissement, ou du moins un moment essentiel de tout apprentissage. Ce que j'appelle apprendre, c'est apprendre ce qui ne s'apprend pas. Ce que j'appelle agir, c'est accomplir ce que je ne peux accomplir volontairement. Ce que j'appelle discerner, c'est discerner ce qu'on ne peut discerner intentionnellement. La conscience supérieure est celle qui s'arrête devant ce qu'elle ne peut pas connaître. Ceux qui ne l'atteignent pas, le tour céleste les met en déroute. Ces passages d'un régime d'activité à l'autre ont quelque chose d'insaisissable, parce que la conscience disparaît de l'un à l'autre et qu'elle ne peut pas être le témoin de sa propre disparition. Chuang-tzu est un philosophe qui s'intéresse au changement de régime de l'activité, aux discontinuités de la conscience et aux paradoxes qui les accompagnent. Lorsque vous réfléchissez à un problème ou que vous n'en trouvez pas la solution, parlez-en à quelqu'un d'autre. Le seul fait de lui en parler vous mettra dans un régime d'activité tellement plus complexe, intense et entier, qu'avec un peu de chance, la solution se présentera d'elle-même. Pour entrer dans la pensée de Chuang-tzu, il faut concevoir le corps comme l'ensemble de nos facultés, de nos ressources, de nos forces, connues et inconnues de nous. Donc comme un monde sans limite discernable, où la conscience tantôt disparaît, tantôt se détache, à des degrés variables selon les régimes de notre propre activité. Selon Chuang-tzu, il importe de savoir changer de régime à propos ou de laisser se faire ces changements. La conscience doit savoir accepter par moments sa propre disparition pour laisser s'accomplir librement certaines transformations nécessaires et se retrouver ensuite plus libre d'agir de façon juste. Alors maintenant, je vous propose de rester dans votre expérience personnelle, d'approfondir si vous avez envie le phénomène de transe par un moyen qui vous intéresse, si c'est nécessaire, et de méditer sur ce que je viens de vous lire, sur les étapes de l'apprentissage. Et j'avais envie de vous mettre en contact spécifiquement avec un apprentissage que vous avez fait, et qui vous intéresse puisque vous êtes venu à ce congrès, qui est la façon dont vous êtes en train d'apprendre, ou dont vous avez déjà appris, ou dont vous continuez à apprendre à faire de l'hypnose. Et donc dans ce texte, on observe clairement les étapes de l'apprentissage, c'est-à-dire ce moment, peut-être que vous l'avez un peu oublié, ou vous ne saviez pas du tout, vous avez observé pour la première fois peut-être quelqu'un qui faisait de l'hypnose. Moi, la première fois que j'étais en contact avec quelqu'un qui faisait de l'hypnose, c'était Jeffrey Zeg. Et à la fois, c'était très étonnant et très familier. Peut-être que vous pouvez prendre un petit moment maintenant pour entrer en contact à l'intérieur de vous-même avec cette première fois. Avec le début. ce moment où l'objet nous résiste. Et peut-être aussi, la première fois où vous avez eu envie, vous, de faire une séance d'hypnose avec quelqu'un, et vous remémorez comment ça s'est passé. Est-ce que c'était facile? Est-ce que vous aviez un peu peur? Est-ce que vous avez hésité? Un peu comme cette personne-là qui découpe son bœuf et qui, au début, sent la résistance de l'objet, qui met 3 ans pour commencer à se sentir un peu plus à l'aise, ou alors comme le charbon qui fait des roues. Et pendant que peut-être votre esprit conscient cherche activement ce souvenir, les détails de ce souvenir, votre esprit intérieur, lui, est déjà connecté avec autre chose. Quelque chose de plus important pour vous. Quelque chose que vous avez envie d'apprendre aujourd'hui, puisque vous êtes venu à cet atelier. Probablement, vous aviez envie d'apprendre. Peut-être quelque chose en rapport avec l'hypnose, ou peut-être quelque chose dans un autre domaine. Et puis peut-être vous intéresser aussi à la façon dont vous faites de l'hypnose aujourd'hui. En octobre 2021, quel que soit le temps depuis lequel vous êtes entré dans cet apprentissage, vous avez forcément développé une certaine aisance. Certaines choses que vous savez bien faire, qui vous sont faciles. Et puis sûrement des patients, des collègues qui vous ont renvoyé cette aisance, qui vous ont remercié pour votre travail. Est-ce que votre apprentissage s'est fait de façon linéaire, avec des étapes progressives? Est-ce que vous arrivez à repérer des stades d'aisance qui s'installe petit à petit? Mais au contraire, est-ce que vous avez appris sans vous en rendre compte? Vous êtes devenu compétent sans le savoir? Et sur une espèce de ligne du temps, différents événements de votre vie en rapport avec l'apprentissage de l'hypnose. Vous pouvez revisiter les souvenirs que vous avez envie de revisiter. La première fois que vous avez expérimenté une lévitation, par exemple, qui est souvent une étape importante de l'apprentissage. Quelque chose se passe, le corps se met à fonctionner un peu différemment. Et on s'en rend un peu compte, puisque la lévitation a l'avantage d'être un phénomène hypnotique visible. Ou alors, la première fois que vous avez expérimenté une analgésie. Est-ce que c'était confortable? Est-ce que c'était bizarre? Est-ce que c'était attrayant? Puis, la première fois que vous avez fait une analgésie à quelqu'un, vous avez appris à une personne à installer un phénomène d'analgésie dans sa main. Ou bien une lévitation. Vous avez appris et transmis. Comme dit Chuang Tzu, le phénomène de conscience, quand la conscience disparaît à elle-même, on ne s'en rend pas compte. Et parfois, dans la transe profonde notamment, on se rend compte qu'on a fait de la transe profonde plusieurs mois après. En tout cas, moi, c'est ce qui m'est arrivé. J'ai fait une séance avec Roxana Erickson et je me suis rendu compte plus tard, beaucoup plus tard, que j'avais fait une expérience de transe profonde très utile pour moi. Je m'en suis rendu compte par hasard. Sur le moment, j'étais un peu déçue. J'avais trouvé que ma séance n'était pas si intéressante que ça. Et puis peut-être programmer aussi, observer dans le futur. Vous êtes là pour continuer à apprendre. J'ai souvent peur de m'ennuyer. Et l'hypnose, à un moment, je m'étais dit ça, je m'étais dit, mais ça se trouve, je vais m'ennuyer, je vais savoir en faire, et puis il n'y aura plus rien à apprendre. Et en fait, cette étape n'est pas encore arrivée, donc c'est vraiment chouette. J'ai créé un long parcours, des expériences très diverses. J'ai l'impression qu'il y a encore et toujours quelque chose à apprendre de nouveau dans l'expérience hypnotique. Un apprentissage d'une technique ou un apprentissage sur moi-même. Quelque chose à renforcer, une compétence à développer, un savoir-faire nouveau. Comme si on était en permanence en train d'élargir le champ de nos possibilités pour rejoindre le régime du ciel de plus en plus intensément, facilement. Développer ces formidables potentialités qui sont à l'intérieur de nous. Et focaliser votre esprit sur ce que vous avez envie d'apprendre maintenant. Quelque chose que vous auriez vraiment envie de savoir faire, quelque chose de nouveau, peut-être un peu difficile, ou alors simplement une augmentation de compétences dans un domaine que vous maîtrisez déjà plutôt bien.